Bonsoir à tous. La course contre la montre face au variant Omicron. Le gouvernement accélère. Présentation du projet de loi sur le pass vaccinal la semaine prochaine. Pour un examen par le Parlement dans la foulée, le pass en entreprise n'en fera pas partie. Pas de consensus suffisant à ce stade. Et pendant ce temps, les hôpitaux déprogramment de plus en plus d'opérations. Nous serons à Lyon. Dans l'actualité encore, le débat sur l'imposition de l'héritage. Le Conseil d'analyse économique plaide pour une réforme en profondeur. Le charbon, encore et toujours, demande mondiale en hausse de 6% cette année, bien loin de l'enjeu climatique. La suite du déplacement de Valérie Pécresse en Arménie et puis un air d'opéra pour tous, mise en image sur la façade de l'hôtel de ville. Joli cadeau fait pendant les vacances aux habitants de Rennes en Bretagne. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, Épéry Colosso, Sport Jersey, vous ne connaissez pas vous
ah, pas hein du
ben
tout.
Oui, si vous aviez pris le train au siècle dernier, vous sauriez que c'est la version italienne du interdit de se pencher au dehors.
Évidemment.
Eh bien au 21e siècle, ce qui est italien, ce sont les trains qui circule sur nos rails. La SNCF s'ouvre à la concurrence. Qu'est-ce que ça change pour nous, les voyageurs? Est-ce que c'est le début de la fin ou au contraire, une chance pour la SNCF? À quoi doit ressembler, selon vous, le train de demain? Vos questions au PDG de SNCF Voyageurs au 01 45 24 7000.
France Inter. Le variant Omicron a poussé la porte et le voici donc qui s'impose pour les fêtes de fin d'année. L'invité qu'on aimerait bien décommander mais qui est déjà bien installé, majoritaire aux États-Unis, au Danemark, sa contagiosité affole et pousse les capitales à accumuler les mesures de restriction, les appels à se faire vacciner. En France aussi, on va l'entendre dans un instant, mais d'abord bonsoir Hélène Chevalier.
Bonsoir.
On aimerait en savoir plus sur sa présence sur le territoire parce qu'on a peu de données finalement.
Oui, officiellement Omicron représente en France, 748 cas, chiffre de séquençage publié par Santé publique France hier, des chiffres peu réaliste car le séquençage prend beaucoup de temps et l'évolution d'Omicron est elle vertigineuse. L'autre moyen beaucoup plus rapide, c'est le criblage qui se fait en même temps que le test par le laboratoire. On sait aujourd'hui que si aucune des mutations n'est décelée, c'est que c'est potentiellement Omicron et le nombre de tests suspects a bondi ces derniers jours. Gabriel Attal estimait ce midi que cela correspondait à une contamination sur 3 à Paris. Florence Desbarres scrute l'évolution d'Omicron dans les données de criblage depuis l'arrivée du variant en France et pour cette chercheuse du CNRS spécialiste de biologie évolutive, on est même déjà au-dessus.
On regarde les données avec de 3 à 6 jours de retard suivant la manière dont on travaille. Et nous, c'est une projection pour évaluer la proportion aujourd'hui, qu'on ne voit pas encore dans les données qui sont partagées. Et en Île-de-France, on estime que la barre des 50% a été passée.
Et la région Pays de la Loire serait également très avancée, mais difficile de donner une photographie plus fine pour le moment.
Et donc, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça peut donner dans les prochains jours?
Eh bien, si on estime que les contaminations doublent tous les 3 jours, Omicron pourrait très rapidement devenir dominant sur tout le territoire, et même peut-être d'ici la fin de la semaine, estime l'équipe de modélisation du CNRS de Montpellier. Beaucoup d'inconnus peuvent jouer sur son évolution, à quelle vitesse une personne en contamine une autre, quelle est sa dangerosité, son échappement immunitaire. Tout dépend également des restrictions qui seront mises en place.
Et la grande inconnu encore, c'est le nombre de cas graves liés à Omicron.
Oui, les hospitalisations que cela pourrait engendrer, des premières données ont déjà été publiées, mais elles sont encore fragiles. Il faudra encore peut-être 2 semaines pour évaluer sa dangerosité, estime par exemple des scientifiques israélien Samuel Alizon travaille sur la modélisation des virus au CNRS. Plusieurs scénarios sont envisagés et même les plus optimistes risquent de ne pas épargner les hôpitaux.
Même si Omicron a une virulence 10 fois moindre que Delta, si sa transmission est 2 fois plus élevée, vous allez quand même multiplier par 3, voire par 4 le nombre d'admissions à l'hôpital associées à la vague.
Et dernière inconnue, Hélène, l'effet qu'aura la campagne de rappel vaccinal sur l'évolution d'Omicron.
Voilà, et ces projections qui poussent le gouvernement à accélérer encore sa réponse. Donc le projet de loi pour la mise en place d'un pass vaccinal sera présenté plus vite en Conseil des ministres, lundi prochain au lieu du 5 janvier, débattu au Parlement dans la foulée, navette express que l'on a déjà connue au plus fort de l'épidémie et réunion donc toute la journée à Matignon, association d'élus consultée ce matin, président des groupes parlementaires cet après-midi, Élodie Forêt, bonsoir.
Bonsoir.
Le porte-parole du gouvernement en sort à l'instant et on est bien dans une course contre la montre.
Oui, pour lutter contre le variant Omicron, pression maximum avant les fêtes. Gabriel Attal s'est notamment adressé ce soir aux jeunes, particulièrement concernés, selon lui, par cette hausse des contaminations.
Réduisez au maximum vos contacts. Si vous avez le moindre doute, testez-vous. Et si vous avez un test positif, il est assez probable qu'il s'agisse du variant Omicron. Et donc, même si vous n'avez pas de symptômes, même si vous avez peu de symptômes, isolez-vous encore plus scrupuleusement.
Un appel à la responsabilité, donc vous l'entendez. La vague est haute, mais nous faisons front, dit encore Gabriel Attal, avec 2 millions de créneaux supplémentaires pour se faire vacciner d'ici la fin de l'année et davantage de doses livrées aux centres de vaccination.
En revanche, pour l'instant, pas de pass sanitaire en entreprise.
Non, le pass restera obligatoire pour les salariés des lieux recevant du public, mais ne sera pas généralisé, faute de consensus. Syndicats et patronats avaient déjà fait part de leurs réserves, ainsi que l'opposition aujourd'hui. Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée.
Le pass vaccinal en entreprise, c'est faire porter la responsabilité sur les employeurs, les chefs d'entreprise, que l'État lui-même ne veut pas porter. Et donc, c'est se défausser de sa propre responsabilité. Donc, c'est pas acceptable pour nous, parce que ça va créer des situations de tension entre les salariés et les employeurs, et c'est finalement refiler la bombe aux autres.
Damien Abad, satisfait donc ce soir, mais qui reste vigilant. Attention, dit-il, à ce que le sujet ne revienne pas par voie d'amendement lors de l'examen du texte. Même chose pour une autre mesure qui avait été évoquée, le pass obligatoire dans les transports.
La situation sanitaire qui se dégrade, c'est la crainte, on le disait, de voir les hôpitaux submergés. La Timone à Marseille a déjà été obligée d'évacuer plusieurs patients vers la Bretagne ces derniers jours. Et à Lyon, les hôpitaux déprogramment toutes les opérations non urgente. C'est le reportage de Mathilde Imberti.
Dans le service du professeur Lionel Badet, l'urologie, l'activité opératoire actuelle est réduite à un tiers de l'activité normale. C'est pareil dans tous les services. La conséquence est immédiate, des centaines d'opérations annulées.
Il ne faut garder dans les programmes opératoires que les patients pour lesquels il y a des pertes de chance et déprogrammer tout ce qui concerne la chirurgie fonctionnelle. L'obstruction rénale, le calcul, on a un certain nombre qu'on remet quasiment depuis un an. C'est la troisième ou quatrième annulation et honnêtement, c'est un peu difficile à supporter et à digérer. Pour vous donner une idée, on a la semaine prochaine entre 6 et 8 salles qui vont tourner sur les 16 qui devraient théoriquement tourner parce que les anesthésistes réanimateurs sont redéployés sur des secteurs de soins intensifs ou de soins vigilants.
Plus de 30 personnes travaillent avec le professeur Badet à l'hôpital Édouard Herriot. Le dernier variant n'a pas encore fauché les effectifs, mais c'est une inquiétude qui s'ajoute aux autres.
C'est l'Omicron qui est en train d'arriver et puis les évictions professionnelles pour les personnels qui vont être touchés. On en est peut-être qu'au début de nos ennuis dans les semaines qui viennent.
On est revenu dans le deuxième CHU de France à la situation d'octobre 2020, dans le dur de la deuxième vague, où la même déprogrammation massive avait dû être actée. À Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Une quinzaine de médecins du Sud-Ouest signent aussi cette tribune aujourd'hui dans le journal Le Monde pour dire leur crainte qu'un jour, les soignants puissent être malveillants à l'égard d'un non-vacciné. Pourquoi le soigner lui avant une patiente atteinte d'infection digestive, par exemple? La mission d'un médecin n'est pas de juger, mais de soigner, affirme-t-il. Mais ils observent la lassitude des professionnels et les choix parfois impossibles qui sont demandés aux soignants quand le problème de priorisation se pose. Et en Europe, chacun sa méthode toujours. Entre les Pays-Bas qui reconfinent tout le monde, le Danemark, l'Espagne, le Portugal qui approuvent la vaccination des enfants, l'Autriche et l'Allemagne qui se préparent à imposer la vaccination obligatoire. Et le nouveau chancelier allemand prévoit encore de nouvelles restrictions. Ludovic Piétenu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant à Berlin, Ludovic. Olaf Scholz qui réunissait les dirigeants des 16 Länder aujourd'hui. Qu'en ressort-il ce soir ?
Eh bien, des restrictions de contact supplémentaires un petit peu partout pour des matchs de football, par exemple. Ce sera sans spectateurs pour la reprise de la Bundesliga le 7 janvier. Mais déjà, dès la semaine prochaine, à partir de mardi prochain, plus de discothèques, plus aucun rassemblement festif ou culturel. Les fêtes du Nouvel An s'annoncent à minima ici, outre-Rhin. Le nouveau chancelier Olaf Scholz vient de résumer la Saint-Sylvestre de cette façon, en allemand.
Es ist nicht mehr die Zeit für Partys und gesellige Abende in großer.
Ce n'est plus le moment de faire la fête et de socialiser le soir en grand groupe. Résultat, pas plus de 2 personnes d'un même foyer invitées chez moi si je ne suis pas vacciné et au maximum 10 personnes sans compter les enfants si celles-ci sont toutes vaccinées et si je le suis moi-même en tant qu'hôte de la soirée. Le nouveau chancelier vient de le dire comme une évidence. Il est conscient de la fatigue qui est celle des Allemands, mais il ne faut pas désespérer, dit-il. Il faut surtout tous se protéger car le coronavirus ne fait pas de pause pendant les fêtes de fin d'année.
Ludovic Piétenu en direct de Berlin en Allemagne. On attend aussi des mesures supplémentaires ce soir aux États-Unis. Le variant Omicron écrasant 73% des nouvelles contaminations contre 13% seulement il y a une semaine. On sait déjà que 500 millions de tests gratuits vont être distribués en janvier et du personnel de l'armée va aussi être mobilisé pour venir en aide aux hôpitaux.
Et à 19h10, Hélène, à 4 mois de la présidence présidentiel, voici des propositions qui pourraient raviver les débats sur la fiscalité de l'héritage.
Une note du CAE publiée aujourd'hui, le Conseil d'analyse économique rattaché à Matignon, chargé de conseiller le gouvernement, qui se penche sur l'imposition des droits de succession. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Première question, qu'est-ce qui ne marche pas dans le système aujourd'hui ?
Eh bien d'abord, le montant des taxes prélevées, 35 à 40% plus d'un tiers du patrimoine transmis, passe sous les radars de l'administration fiscale. Souvent, pour des raisons on ne peut plus légales, liées à la surabondance d'avantages fiscaux ou d'exemptions diverses, sur l'assurance vie notamment, sur les pactes Dutreil qui régissent les transmissions d'entreprises familiales. Il y a aussi des raisons moins acceptables, écrit le Conseil d'analyse économique, en particulier les lacunes dans le recueil des déclarations fiscales sur les transactions et le montant des droits payés, une opacité qui favorise les abus et qui rend le système d'autant moins compréhensible par les citoyens.
Et alors, quelles sont les propositions du Conseil d'analyse économique ?
Alors, d'abord, d'améliorer la transparence et ensuite de s'attaquer à quelques particularités de notre système qui alourdissent les inégalités. Par exemple, ne plus raisonner en termes de durée de 15 ou 20 ans pour certaines exemptions qui permettent de multiples transactions à moindre frais pour les plus fortunés, mais de raisonner sur le montant total des transmissions tout au long de la vie pour mettre tous les contribuables sur un pied d'égalité. De quoi générer un surplus de recettes fiscales, surtout si on supprime en plus un certain nombre d'exemptions, il y aurait de quoi en contrepartie réduire les droits de succession pour 99% de la population et même financer une garantie universelle de capital versée à la majorité pour l'ensemble des Français qui pourrait aller jusqu'à 40 000 euros.
Un sujet qui anime régulièrement le débat public. Chaque candidat à la présidentielle a son idée sur la question, ou presque. À droite et à l'extrême droite, on défend plutôt un allègement de la fiscalité sur les donations. Valérie Pécresse est pour l'idée d'un choc de transmission de patrimoine avec des donations de 100 000 euros désormais défiscalisées tous les 6 ans. Plutôt l'inverse à gauche, les propositions visant davantage à imposer les successions et donations. Jean-Luc Mélenchon, notamment pour la France Insoumise, veut créer un héritage maximum pour les plus grandes fortunes. Les cours du gaz et de l'électricité à des sommets battent de nouveaux records aujourd'hui sur les marchés de gros européens. Une surchauffe qui s'explique à la fois par les températures qui continuent à baisser en Europe, mais aussi par le recul des exportations de gaz russe par pipeline. Et la planète est toujours accro au charbon, alors que c'est l'énergie qui émet le plus de CO2 et que tous les experts climat disent qu'il faut en sortir. La demande mondiale est encore en hausse de plus de 6% en 2021, selon le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie. La Chine et l'Inde, premiers consommateurs. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
Et rien n'indique que cela va baisser l'année prochaine.
Oui, et pourtant en 2019-2020, la consommation mondiale de charbon avait baissé à cause de la pandémie Covid qui a paralysé l'économie. Mais avec la reprise économique, la demande est repartie de plus belle. Elle devrait augmenter de 6% en 2021 pour produire de l'électricité, mais aussi fabriquer de l'acier et du ciment. Et cette ruée vers le charbon devrait atteindre de nouveaux records historiques l'année prochaine. Cette tendance, vous le disiez, est largement façonnée par la Chine et par l'Inde. Ces deux pays représentent à eux seuls les deux tiers de la demande mondiale. En 2021, le charbon a bénéficié à la fois de l'envol du cours de son concurrent, le gaz naturel, mais aussi du fait que le déploiement des énergies renouvelables ne suffit pas à répondre à la reprise économique. L'Agence internationale de l'énergie s'inquiète de cette consommation record du charbon, car pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut au contraire en sortir.
Sandy Dauphin pour les explications. Les problèmes d'approvisionnement qui handicapent le secteur automobile. L'emploi va s'en ressentir dès le début de l'année prochaine, prévient le Conseil national des professions de l'automobile. 60% des concessionnaires envisagent des réductions d'emplois. Et une autre image des pénuries, des frites plus petites dans les McDo du Japon qui manquent de pommes de terre. Les restaurants ne vendront que les tailles moyennes et les grandes tailles pendant au moins une semaine. Et pendant ce temps, Valérie Pécresse tente de se forger un costume de présidentiable. La candidate LR est en Arménie. Beaucoup de rencontres et d'échanges pour évoquer, entre autres, la place de la France dans les négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan après la guerre éclair dans le Haut-Karabakh. Reportage à Erevan, Anne Souhaitemont.
Valérie Pécresse, silencieuse quand elle se recueille ce matin, un œillet blanc à la main au mémorial du génocide arménien. Puis au cimetière où sont enterrées, sur les hauteurs d'Erevan, une partie des victimes de la guerre éclair de novembre dernier. La candidate à l'Élysée, à qui l'image de francilienne colle à la peau, vient ici tenter de se tailler un costume de présidente avec une série de rencontres. Président de la République, ministre des Affaires étrangères, mais pas de Premier ministre, pourtant à la manœuvre dans les négociations de paix. Objectif, se donner une stature internationale dans le viseur de la candidate, Emmanuel Macron.
Qu'est-ce que je ferais ? J'agirais plus. L'Europe commence à s'engager sous l'impulsion du président du Conseil européen, mais pas sous l'impulsion de la France. Je souhaite, si je suis présidente de la République, prendre un certain nombre d'initiatives diplomatiques. Parce que je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui la France ait été à la hauteur des événements ici en Arménie.
Des initiatives dont l'organisation, si elle est élue, d'une grande conférence internationale à Paris sur le maintien de la paix en Arménie. Mais en attendant, c'est bien Emmanuel Macron que le président arménien, qui a pourtant déjeuné avec Valérie Pécresse ce midi, a remercié aujourd'hui sur Twitter pour son engagement. Anne Souhaitemont, Erevan, France Inter.
Quand une affaire internationale, Sciences Po Grenoble prend un tour politique. On vous parlait ce midi de ce professeur suspendu de ses fonctions hier par la direction de l'IEP. En réaction, le président de région, Laurent Wauquiez, a décidé de couper ses financements et il a reçu le soutien de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. La direction, elle, dénonce une décision politique. L'enseignant en question, Klaus Kinzler, avait été accusé d'islamophobie en début d'année. Et il a depuis, dans plusieurs interviews récentes, accusé certains de ses collègues d'endoctriner les étudiants avec les théories woke, accusé l'établissement d'être un lieu de rééducation politique. Et c'est depuis ces interviews que la direction a décidé de suspendre l'enseignant. On a la valeur, le prix payé en tout cas pour le premier SMS de l'histoire. On vous en parlait ce matin, envoyé depuis un ordinateur, un téléphone portable le 3 décembre 1992. Deux mots, joyeux Noël, destiné à un collègue, adjugé quand même à 107 000 euros. Bah oui, c'est le premier SMS de l'histoire, lors d'une vente organisée par la maison Agutte aujourd'hui à Neuilly-sur-Seine. Toucher du doigt la magie de l'opéra pour ce plaisir-là, le rendez-vous est pris à Rennes en ce moment, en Bretagne, qui comme chaque année illumine la façade de son hôtel de ville, cette fois avec la création originale Rennes, R-E-I-N-E-S, ce qui célèbre les grandes héroïnes de l'opéra. Le fondateur et président de l'entreprise spectaculaire Allumeur d'Images, à l'origine de cet événement en plein air, Benoît Quérault, nous raconte.
Ça consiste en fait en un hommage aux reines de l'opéra à travers sept extraits d'opéra célèbres. En cette période de fin d'année, voilà, on a besoin de couleurs, on a besoin un peu de rêver. Et donc on propose ce spectacle avec bien sûr moult images qui s'inscrivent sur l'architecture de l'hôtel de ville de Rennes. Et du coup on transforme l'apparence habituelle de la façade en des théâtres imaginaires assez incroyables. On commence par la flûte enchantée, on termine par Carmen. Vous voyez que le voyage est assez fantastique. C'est surtout l'idée de donner l'envie à un grand public, petit et grand réuni, d'avoir envie de prolonger ce moment-là par de l'écoute et puis peut-être, qui sait, aller à l'opéra, c'est pas interdit.
L'air de Carmen de Georges Bizet parmi ces reines donc de l'opéra célébrée à Rennes, la capitale bretonne, sur la façade de l'hôtel de ville jusqu'au 2 janvier de 18h à 22h. Benoît Quérault était au micro d'Amélie Perrier. À 3 jours de Noël, on peut aussi aimer un petit vin chaud sur le marché de Noël aussi de Strasbourg, ou alors carrément faire la marmotte, parce que ça vous a pas échappé, on est le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver, donc c'est le jour le plus court de l'année, et puis on aimerait bien hiberner le temps que ça passe, hein, ce jour sans fin, cette épidémie de Covid. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de demain, on regagne petit à petit quelques minutes de soleil.
Ouais. Minute par minute, c'est le moins qu'on puisse dire. Hélène Philly, vous êtes à la minute pour le journal, et ça c'est bien. Merci beaucoup. À demain.